Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Suivante, c'est qu'il y a, quatre ambiguïtés. Enfin, c'est le problème, j'allais dire, de toute enquête policière, c'est de savoir qui m'attaque, quel est le dommage subi, quel est le moyen utilisé et quelle est la finalité. Et donc, je vais essayer de vous prouver que dans le monde numérique, ces quatre questions sont très délicates. Il y a deux problèmes principaux, des problèmes mathématiques que j'aime bien, qui nous montrent que certaines choses sont tout à fait impossibles. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, c'est que dans le cybermonde, on veut souvent, ou dans le cyberespace, on veut quelque chose et son contraire. Et ça marche pas très bien. Donc le cyberespace, donc j'avance là-dessus, le cyberespace est finalement une construction purement humaine, c'est peut-être le premier espace qui a été construit par l'homme, c'est aussi un artefact, et il est différent du monde physique, ça vous le savez, car ses lois sont d'une autre nature. Les réseaux numériques n'ont pas de frontières, ils sont extensibles à l'infini, ils sont à la fois très physiques, des machines et tout ce que j'appelle la tuyauterie, mais ils sont aussi de nature abstraite et virtuelle, c'est toute l'intelligence qu'on met sur ces réseaux. Le temps et l'espace sont comprimés, hein, c'est la vitesse de la lumière. Les attaquants potentiels sont parfois vos proches voisins, on se fait souvent pirater d'ailleurs par ces voisins. Les transitions sont indécelables dans ce réseau-là, dans ce monde. Les précurseurs sont des événements qui sont très difficiles à percevoir. Les identités, on va en parler un petit peu, sont difficiles à décerner et les actions sont incertaines. Alors je vais confronter donc ces quatre ambiguïtés à la réalité technique d'aujourd'hui et puis peut-être un peu de ce que j'imagine être le cyberespace dans le futur. Alors l'analyse, je me permets de mener une analyse technique parce que, bon, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je suis quand même enseignant dans ce master, je crois, depuis l'origine. Donc j'essaie d'enseigner à des élèves la cybersécurité, de leur faire comprendre, et ça marche très très bien, ce que c'est par exemple la cryptographie, qui est une science mathématique assez superbe, mais qu'il faut maîtriser quand on essaie de comprendre le cyberespace. Et donc je m'appuie là-dessus sur un travail qui a été fait par le juriste Lawrence Lessig en 2000, qui s'appelle Code is Law. Sa conclusion, elle est très simple, c'est le code du cyberespace qui régule. Donc il faut comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Alors sur les définitions, je passe très vite. Je vous invite quand même à essayer de propager ces définitions-là qui sont dans un document stratégique que nous avons publié en février 2011. Alors c'est assez important parce que je suis, moi, dans ce domaine de la SSI depuis 25 ans. Je suis un des vétérans français. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Et donc on n'a pas changé finalement de point de vue et de définition depuis 25 ans. Il y a des pays que je ne citerai pas qui changent de stratégie tous les 6 mois. Et qui changent de définition aussi vite. Donc je vous livre ces définitions-là, qui sont l'objet de ces 25 ans de réflexion dans le pays. J'ai essayé de défendre ça, de faire un peu de lobby à Bruxelles, parce qu'il y a un document qui vient de sortir, qui est une proposition américano-russe de définition de tous ces termes en cyber, qui moi, me pose un certain nombre de problèmes. C'est assez agressif, ça. Bon, voilà. Donc je essayais de défendre l'approche française, ça, je pense que c'est utile. On est toujours en train de rechercher des définitions internationales, donc je vous livre celle-là. Donc la cybersécurité, c'est l'état recherché, donc c'est sur ça qu'on travaille à l'agence nationale. On a toujours ce triptyque magique, disponibilité, intégrité, confidentialité, on n'en a pas bougé. Et on a trois dimensions, la SSI, ça c'est c'est la science que je pratique depuis 25 ans, c'est comment protéger nos systèmes d'information. La lutte contre la cybercriminalité, c'est vous les spécialistes. Et la mise en place d'une cyberdéfense, c'est-à-dire pour un pays d'estimer quels sont ses systèmes essentiels, ça c'est devant nous, ça c'est notre travail du futur. La cybercriminalité, le début, vous le trouvez dans ce document-là. Moi, j'aime bien y rajouter, on en a déjà parlé, hein, donc c'est facilité, souvent le cybercrime est facilité par l'éthique. Il y a des crimes qui sont liés à l'existence de ces tics. Et puis, il y a aussi une troisième catégorie qui est moins abordée, qui est détournement rapide des nouvelles technologies. Je cite, par exemple, les drones commerciaux. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des petits hélicoptères qui vont aller dans la chambre à coucher du voisin. Donc, comment on va gérer tout ça? Ça, c'est devant nous. L'Internet des objets, les frigos intelligents, on va pouvoir tuer des gens en coupant le frigo. Donc, bon, tout ça, c'est devant nous. Donc ça, c'est des sujets du futur. Alors, j'ai utilisé pour caractériser ces quatre ambiguïtés, quatre exemples. Je vais passer très vite dessus, c'est dans l'article, hein, c'est écrit. Le premier, c'est ce qu'on appelait la première cyberguerre, c'est l'attaque de l'Estonie par je ne sais pas qui, en avril 2007. Donc je passe dessus. La deuxième, c'est plus intéressant. C'est toutes les attaques qu'on voit depuis le début de l'année. HB Gary, c'est une société de sécurité. Et là, j'ai mis dans l'article, mais vous lirez ça, j'ai essayé de vous décrire un peu ce que c'est une attaque aujourd'hui par des gens dont c'est le métier ou des gens qui sont... Alors, ils utilisent un peu tout. Ça s'était traduit, cet exemple-là, mais je vais vous en montrer un autre. HB Gary, On a retrouvé sur les réseaux BitTorrent, et là je vais vous montrer ce qu'on peut trouver aujourd'hui, ce que j'ai trouvé hier, on a retrouvé 4 gigas de on a trouvé tous les messages du directeur de cette entreprise, avec toutes les pièces jointes, il y avait des choses assez intéressantes, et donc bien sûr il a été obligé de démissionner, là. C'est une société de sécurité. Il y en a une autre qui a été cassée la semaine dernière, qui s'appelle... Unveilance, c'est une société qui travaille avec le FBI. J'ai récupéré ça hier soir sur les réseaux. J'étais à l'étranger l'année dernière, donc vous avez ici 711 mégaoctets de documents. On m'a dit qu'il y avait des choses intéressantes. Et bien sûr, ça commence par un statement à la presse qui dit voilà pourquoi on a attaqué cette société. Alors ça a été fait par un réseau qui s'intitule les LulzSec. C'est imprononçable, hein, ça vient de LOL, je sais pas quoi. Et donc, il paraît que c'est des grands copains au réseau Anonymous. Et d'ailleurs, il y a un lien avec l'attaque de la société HB Gary, puisque ils ont donné des détails sur comment ils ont piraté le compte Twitter du directeur d'HB Gary. Et donc, on imagine qu'il y avait des gens derrière. Donc ça, c'est des attaques comme on en a beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est assez destructeur pour les sociétés qui en sont victimes. Depuis le début de l'année, voilà tout ce que... Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La presse a parlé de toutes ces attaques-là. Il n'y a pas là-dedans le FMI, là, c'est arrivé la semaine dernière. Il n'y a pas Sega. Sega, aujourd'hui, une attaque informatique, ça fait un petit entrefilet dans les journaux. J'ai lu ça. Le groupe japonais Sega a indiqué hier que les données personnelles de 1,29 million de clients ont été dérobées à la suite d'une attaque. Ça fait un petit entrefilet. Donc, vous voyez, c'est en train de... Bon, c'est du courant aujourd'hui. Hein. 1,29 million de code bancaire, ça n'a plus aucune importance. Donc voilà un peu les attaques ciblées, c'est mon deuxième exemple. Mon troisième exemple, c'est Stuxnet, donc c'est le fameux ver qui attaquait des systèmes industriels, donc je passe dessus, qui avait quand même des caractéristiques très intéressantes, hein, donc qui sont dans ce schéma-là, ça devient des objets assez compliqués. Et puis le quatrième exemple, alors je l'ai pris et on peut me demander pourquoi, parce que peut-être que ça n'a rien à voir avec ces histoires de cyberconflits, c'est une bataille de machines, et c'est quelque chose qui est devant nous. Et donc c'est quoi ? On appelait ça le flash crash, c'est arrivé le 6 mai 2010. En fait, c'est des machines de traders qui se sont battues avec un certain nombre de conséquences assez bizarres. On va revenir dessus. Donc, est-ce qu'il y a de la cyberdélinquance derrière ça ? Là, on n'est plus dans... Hier, on parlait du petit jeune là, qui s'achète une PS3. Là, on est dans l'unité de base de ce genre d'objet, c'est le million de dollars. Là, c'est arrivé à plusieurs milliards qui sont échangés. Vous savez aujourd'hui que le fast trading, on arrive à racheter la même action 1000 fois dans la seconde. Hein. Là, on est dans tout à fait autre chose. Hein. Donc, c'est des programmes qui s'affrontent et c'est assez intéressant. Donc, je commence par l'ambiguïté de la source. Qui m'attaque ? Alors, cette première question, il faut bien sûr la projeter sur Internet. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur Internet, mais il faut savoir qu'il y a des datagrammes hein, qui relient des réseaux. L'Internet, aujourd'hui, c'est 20 000 réseaux qui sont reliés. Beaucoup disent que c'est aujourd'hui une balkanisation du réseau, parce que ces 20 000 réseaux sont tous de nature différente. Mais ce qui relie tous ces réseaux-là, c'est le protocole TCP/IP, c'est ces datagrammes qui ont tous une adresse source, une adresse destination. Donc, en première approximation, on peut se dire que c'est facile pour retrouver, puisqu'on sait d'où ça vient, on sait où ça va. Mais il y a une caractéristique particulière du cyberespace qui fait que les cailloux blancs du petit pousset, ça fonctionne très très mal. Alors une première illustration, c'est que pour protéger les systèmes d'information, il y a des bonnes pratiques, on parle d'hygiène informatique ou des choses comme ça, qui sont de créer des barrières successives. On appelle ça de la défense en profondeur. Alors on met des passerelles, on met des ruptures protocolaires, on met des zones démilitarisées, on met des fausses pistes, des choses trappes, on fait du honeypot, c'est du pot de miel, enfin on fait beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc on en a parlé ce matin, des serveurs mandataires qui s'appellent des proxys, qui sont là pour casser un peu pour casser le chemin du petit pousset. Donc ça c'est très important, donc il faut retenir ça. Un autre exemple de ces cassures protocolaires, c'est les réseaux d'anonymisation. Alors là je vous présente un réseau qui fonctionne maintenant depuis quelques années, qui s'appelle Tor, qui fait qu'on va à sa destination par des chemins cryptés qui changent de temps en temps, toutes les 10 minutes. Tout ce qui est en vert, c'est des tuyaux chiffrés, et finalement, l'endroit où on va, ce qu'il arrive à repérer, c'est simplement la dernière machine en rouge. Hein, tout le reste est caché. Alors bien sûr, je ne vous garantis pas que ce réseau est totalement sécurisé. On ne sait pas à qui appartiennent les machines, il y a plein de gens qui essaient de prendre le pouvoir, donc ça c'est une autre question. Mais c'est simplement pour vous montrer sur ces deux exemples-là qu'on a un problème, qu'on utilise ou pas ces techniques d'anonymisation, on considère, les gens qui font un peu des investigations, considèrent qu'après 2 ou 3 rebonds, la remontée de traces devient extrêmement délicate. Alors si vous avez en plus des machines dans le, sur le chemin qui sont hébergées dans des paradis numériques, et il en existe beaucoup, vous n'arriverez jamais à savoir qui vous attaque. Ça c'est un premier constat. On peut aussi se placer à la place de l'attaquant, et là c'est très simple. L'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va par exemple, le plus simple c'est d'utiliser un hotspot Wi-Fi. Hein, c'est de se brancher de manière anonyme derrière une connexion sans fil accessible. Il y a une densité très forte dans les villes. Le canal radio reste une composante critique des réseaux mobiles qui permet aujourd'hui, à partir des ordiphones, des smartphones, de faire à peu près toutes les actions vilaines. Bon. Alors, on avait fait une recommandation en 2002, je vous la relis parce qu'elle est trop belle. On avait dit, il faut utiliser un protocole, l'utilisation d'IPsec reste la manière la plus sûre de sécuriser son réseau sans fil. Ce qui n'interdit pas de mettre en place le chiffrement disponible sur le lien radio. Alors, je vous rassure ou je vous rassure pas, cette pratique n'est pratiquement, c'est jamais utilisé, hein, cette recommandation-là. Bon, ça, voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut savoir qu'il y a là un point de faiblesse. Alors, si on prend l'exemple de l'attaque HB Gary, l'Espagne a arrêté ce qu'ils appellent des agresseurs informatiques, des membres d'Anonymous. Et je cite ici le chef de la brigade d'investigation qui a dit la chose suivante, c'est des experts informatiques capables de crypter leurs échanges. Donc ils savent crypter, c'est des experts. Alors bon, mes fils sont des experts parce qu'ils savent crypter. Et puis ils mettent deux d'entre eux n'avaient pas de connexion internet chez eux pour ne pas éveiller les soupçons et accéder au web en passant par les connexions Wi-Fi des voisins. Bon, mon fils étudiant a fait à peu près la même chose. Donc voilà, bon, mais enfin, il n'a pas été arrêté. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir qui est derrière ces choses-là. Alors il y a un problème qui est celui-là, je vais aller très vite dessus, c'est que beaucoup de gens nous disent on va reconstruire Internet, on va tout changer, scrogneux, il y a un problème d'identification, d'authentification. Je vous signale quand même que la moitié de l'humanité n'a pas encore d'identité. Donc il faut toujours retenir cette chose-là, bon c'est en train de changer. Et donc vous avez le PDG de Google qui dit, Eric Schmidt, qui dit en 2010, il faut une transparence totale, je le cite. Vous avez en même temps, deux semaines après, un dignitaire du régime chinois, Wang Chen, qui dit qu'on va mettre en place un système d'identification réel sur Internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pas réel. Et puis vous avez Howard Schmidt, qui est un autre Schmidt, là, qui est conseiller Internet à la Maison Blanche, qui a dit on va déployer un système d'identification volontaire et vérifié, basé sur une carte à puce capable d'identifier l'empreinte digitale de l'internaute. Bon, alors, sur la biométrie, j'avais écrit un article que vous pourrez retrouver, qui est encore sur Internet, qui montre que la biométrie n'est pas d'une grande utilité dans ce contexte. Bon, en plus, ça pose des questions de respect de la vie privée, s'il faut des stockages massifs de données de ce type. Alors, le meilleur système d'authentification, ça a été dit par Monsieur Crochemore ce matin, ça reste, vous voyez, j'ai le même schéma que lui, ça reste quand même la carte à puce avec saisie de code porteur et lecteur, je rajoute une chose, hein, et lecteur non transparent. Vous savez, c'est comme dans les restaurants, c'est les lecteurs où on tape son code PIN. Parce qu'aujourd'hui, quand vous tapez un code PIN sur un ordinateur comme ça, vous pouvez être victime de ce qu'on appelle un keylogger, un petit programme qui va récupérer votre code PIN. Et vous avez vu ce matin que les cartes aujourd'hui se vendent, il faut vendre la carte, mais il faut vendre le code PIN avec, hein, sinon ça n'a pas beaucoup d'usage. Donc il faut, voilà, ça c'est le meilleur système, on ne sait pas faire mieux. D'ailleurs, une des mesures qui a été prise par le Conseil des ministres, c'est de doter tous les fonctionnaires français d'une carte agent. Donc ça va beaucoup changer les choses. Alors, les agresseurs, je vous rassure tout de suite, ne se soumettront pas du jour au lendemain à la carte à puce avec lecteur, avec empreinte digitale. Et en plus, quand ils ne cherchent pas d'ailleurs à casser ces dispositifs-là, il y a deux mois, un des dispositifs de ce qu'on appelle d'authentification forte, qu'on appelle les RSA Secure ID, ça a été cassé. Hein, et donc, il y a eu plein d'attaques qui se sont faites derrière le fait que ce dispositif-là a été cassé. Bon, je ne vous raconte pas pourquoi, il y a quand même des imprudences chez la société RSA qui avait gardé toutes les, on appelle ça des ferments cryptographiques de tous ses clients, ce qui n'était pas écrit dans le contrat, et ce qui normalement est interdit. Alors malheureusement, cette carte non qualifiée en France a été déployée dans un certain nombre d'administrations que je ne citerai pas. Alors on pourrait imaginer, je finis là-dessus sur le KIB, c'est la partie la plus longue, parce que c'est toujours la question d'attribution, on me dit, c'est le fond du problème. On a cru trouver la solution dans IPv6, vous savez, c'est le nouvel espace d'adressage, on peut adresser toutes les molécules de l'univers, et peut-être même les extraterrestres. Alors ça ne marche pas, parce que pour protéger les systèmes, il va falloir filtrer et encore filtrer. On a cru trouver une deuxième solution dans ce qu'on appelle les coprocesseurs de sécurité, c'est-à-dire on va marquer tous les objets, tous les ordinateurs, tous les... Bon, alors aujourd'hui, on en trouve dans un certain nombre d'ordinateurs. Je ne sais pas si NEC est équipé d'un coprocesseur de sécurité. Là aussi, on a découvert récemment, c'est des chercheurs de chez nous et d'autres, qui ont découvert qu'il y a des attaques nouvelles sur les ressources matérielles, qui utilisent du man in the middle dans les phases de démarrage, c'est des choses un peu compliquées, qui utilisent par exemple des faiblesses dans les cartes réseau, qui fait que ces choses-là marchent bien quand c'est des gens honnêtes qui les utilisent, et quand c'est des gens malhonnêtes, ça marche beaucoup moins bien. Et puis je finis sur le qui, par ce qu'on appelle le cloud computing, on en a beaucoup parlé. Donc c'est effectivement la révolution en cours, et donc ça va complètement changer la façon d'aborder ces problèmes-là. Là j'en suis totalement persuadé, pour avoir vu d'ailleurs des data centers gigantesques, je sais que ça va changer le monde. Et donc ce qu'il faut retenir là-dedans, bon la grande question c'est est-ce qu'on peut détruire une donnée dans le cloud, ça personne ne sait y répondre. Mais une autre question, alors ça c'est important parce que par exemple les données médicales, en France il faut les protéger 25 ans après la mort de celui que... voilà. Donc, est-ce qu'on s'est protégé ? Et 125 ans, si on ne sait pas si la personne est morte. Donc, imaginez protéger une information numérique sur le cloud durant 125 ans. Si vous avez la solution, on vous embauche tout de suite à l'ANSSI. Il y a des postes en ce moment. Donc, ça, c'est pour finir sur le qui, pour vous dire que ça va être difficile. Sur le cloud, aujourd'hui, le problème, c'est que les grands du web ont tous leurs solutions propriétaires. Et ça m'étonnerait que ça facilite le travail d'enquête pour savoir d'où sort une attaque. La deuxième ambiguïté, c'est celle du dommage. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Alors il faut savoir qu'un cyberconflit, ça se joue à très forte vitesse. Chez nous, à l'ANSSI, on pense qu'il va falloir trouver des réponses à 5 minutes. Donc vous imaginez des réponses à 5 minutes, c'est très difficile. Quand on fait une enquête, c'est pas en 5 minutes que ça se compte, c'est en année homme. Donc il y a quand même une grosse différence entre la vitesse d'attaque et la vitesse de résolution de comprendre ce qui s'est passé. Alors le cyberespace est aussi un espace physique, donc formé de machines, de câbles, de fréquences. Alors c'est pas un no man's land comme on le présente souvent, comme pourrait l'être l'espace maritime. Alors les dommages peuvent être physiques. Alors là je suis un peu désolé, mais je vous montre la Georgienne de 75 ans qui, en voulant récupérer du cuivre, hein, parce qu'il y a beaucoup de vols de cuivre en ce moment, a sectionné une fibre optique et qui a coupé l'internet de l'Arménie pendant près de 5 heures. Bon, c'est pour la petite anecdote, mais c'est pour montrer qu'il y a aussi des dommages physiques. Alors si on prend par exemple ce Stuxnet, il a fallu étudier pendant pas mal de temps pour se rendre compte que ce programme Stuxnet était s'attaquer à des machines assez particulières, ça générait des fréquences appropriées à certains moteurs, et on en déduit que c'était ciblé vers des machines d'enrichissement d'uranium. Voilà, ce qui a... Bon, c'est à peu près plausible, on peut se dire que là, le dommage, c'était bien calculé pour un certain nombre type de centrifugeuse qui se trouve, pour ne pas le dire, en Iran. Donc ça, c'est, on a à peu près réussi à découvrir les choses. Alors, mais il y a deux petits problèmes pour définir le dommage, je vais vous montrer ça. Je vous montre ça. Ça, c'est un peu plus délicat. C'est mon quatrième exemple. C'est ce fameux crash éclair. Donc là, le dommage, c'est un peu plus compliqué. Vous avez des actions qui ont... Ça a duré 10 minutes. Vous avez des actions qui ont chuté à 0,01$. Vous les avez là, Accenture, Procter & Gamble. Il y en a une qui a grimpé à 100 000$. Alors, devant ce problème-là, devant ces machines qui sont devenues folles, la SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, a décidé une chose assez étonnante. Ils ont décidé finalement de se dire, on efface les 25 minutes de transaction et on passe à autre chose. Alors, je sais pas s'il y a eu des procès derrière, etc. Mais vous voyez, de temps en temps, dans ce monde-là, quand le monde devient fou, quand... moi je pense qu'il y a derrière un phénomène chaotique en mathématiques qui a dérivé, on s'en dit, on oublie. Alors peut-être que la prochaine crise, ça sera quelque chose, on aura du mal à effacer l'ardoise. Mais bon, voilà, on s'est effacé. Alors, il y a deux problèmes sur le dommage. Le premier que je vous livre, c'est toujours ma théorie des trois théorèmes. Le deuxième, c'est celui du piégeage. Donc, c'est Ken Thompson qui dit que on peut pas faire confiance à un type comme lui parce qu'il est capable de vous piéger une machine sans qu'on s'en rende compte. Et donc, ça, il faut toujours le garder en tête. Quand on regarde ces dommages, on peut se faire piéger. On a des pièges dormants qui peuvent être activés. Et là, c'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé. On a aussi quelque chose d'autre qui est important. C'est l'anonymat. Pour protéger la vie privée, on est en train de se construire un certain nombre de fonctions. Ça s'appelle anonymat, pseudonymat. Elles sont totalement codifiées. Et donc, ces fonctions-là, on en a besoin. Je vous ai dit au début, on ne peut pas avoir quelque chose et son contraire. Donc, on va avoir besoin de plus en plus de fonctions d'anonymat. Alors, les voleurs d'informations, ceux qui essaient de vous cloner de l'information, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont d'abord ne pas toucher à l'objet volé. Ils vont pas le détruire. Ils vont essayer de l'exfiltrer. Et la meilleure façon de l'exfiltrer, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est d'utiliser des techniques de stéganographie. C'est-à-dire de se rendre totalement invisible. Quand on vous vole de l'information, aujourd'hui, vous ne vous en rendez même pas compte si c'est bien fait. Alors, la stéganographie, il faut savoir qu'il y a un article mathématique qui montre que de toute façon, on pourra toujours vous tromper. Donc ça, on pourra toujours inventer quelque chose qui vous sera invisible. Donc c'est un théorème mathématique. L'article est un peu difficile à lire. Là, j'essaie pas de le faire lire à mes étudiants parce que il faut avoir fait un petit peu de mathématiques, mais ça existe. Donc voilà. Alors sur le dommage, je finis très vite parce que le temps est compté. Il y a aussi des dommages indirects. Par exemple, pour Stuxnet, il y a eu du vol de clés de signature chez des fournisseurs asiatiques qui avaient la confiance de Microsoft. Et quand vous volez des clés de signature, vous allez signer votre logiciel et tous les filtres, tout ce que vous mettez en place dira ce logiciel est un bon logiciel. Donc ça, c'est un problème de base. Je passe à la troisième ambiguïté qui est celle du moyen. Comment on fait ? Alors comment on fait ? Ça, c'est ma boîte à outils, c'est un classement personnel. Donc ça, c'est... J'allais dire, il faut venir au... Si vous voulez en savoir un peu plus, il faut vous inscrire au master, j'explique un peu tout ça. Mais donc, vous voyez, la boîte à outils, elle est assez fournie. Alors, il y a un autre théorème qui est assez embêtant, qui est le théorème que j'appelle le théorème du virus. Alors, ce théorème du virus, il est écrit là, ça a été prouvé en 84. Donc, vous voyez, j'ai l'âge de ce théorème hein, dans cette science-là. Et donc, il dit la chose suivante, il dit qu'il est très difficile de décider si un logiciel est un logiciel malveillant ou ne l'est pas. Alors je vous livre ici une phrase que j'aime beaucoup d'un certain nombre de stratèges chinois. C'est un livre qui s'appelle La guerre hors limite, qui a été écrit en 99 et qui est un livre qu'il faut absolument lire sur ces sujets-là. Ils disent la chose suivante. Ils disent « Nous croyons qu'un bon matin, les hommes découvriront avec surprise que des objets aimables et pacifiques ont acquis des propriétés offensives et meurtrières. » On est dans ce cas-là, dans le cyberespace, où on a du mal à distinguer un objet gentil d'un objet méchant. Or, je pense aussi dans le futur que de plus en plus les attaques vont se faire à travers vos antivirus, vos filtres, parce que très souvent ces programmes ont beaucoup trop de droits sur vos machines. Donc ça, c'est un endroit où on va essayer d'agir. Alors la prolifération des cyberarmes dans ce cybermonde est totalement inéluctable. Donc je passe là-dessus, par exemple sur Stuxnet aujourd'hui vous avez un site qui propose du Stuxnet en ligne, donc vous pouvez faire votre propre Stuxnet. Sur les chemins d'attaque, la meilleure façon c'est de voir un peu comment HB Gary s'est fait attaquer, il y a eu tout un ensemble de choses tout à fait intéressantes. Alors je vous livre deux, je vais aller très vite là-dessus. Ça c'est un document de Verizon qui est une analyse des crimes financiers aux États-Unis. Je trouve ça assez intéressant. Ça c'est une classification des moyens élémentaires d'attaque. Quand on attaque, on crée ce qu'on appelle un chemin d'attaque. Le défenseur lui-même met en place un certain nombre de défenses et il s'agit d'arriver à travers. Donc ils ont répertorié, c'est assez bien fait, 630 moyens élémentaires de construire un chemin d'attaque. Donc ça c'est la trousse à outils qui est quand même assez fournie. Et dans la réalité, on se rend compte que les attaquants finalement utilisent peu de choses. Alors c'est pas parce qu'ils n'ont pas de l'imagination, ils en auront toujours plus que le défenseur. Vous voyez, le défenseur, il faut qu'il ferme toutes les portes. L'attaquant, il va chercher un chemin d'attaque. Ça montre simplement que les attaques les plus traditionnelles marchent très très bien aujourd'hui. Et donc c'est pas la peine d'aller chercher du trop sophistiqué. Donc ça c'est un élément intéressant. Alors si vous prenez mes exemples, par exemple l'Estonie, comment ils ont attaqué. Vous voyez, il y a des gens qui professent le droit à l'autodéfense et qui disent si on m'attaque d'un pays, je vais attaquer ce pays-là. On a même entendu récemment qu'on allait lâcher des bombes. Donc vous voyez, si l'Estonie s'était défendue ou si l'OTAN avait décidé de défendre l'Estonie, on aurait attaqué l'Égypte, les États-Unis, le Vietnam, la Turquie, etc. Vous voyez, donc il y a un problème. D'ailleurs, je vous signale sur cette attaque-là, les journalistes ont parlé 1 million de machines. On n'est pas 1 million de machines, on est à 10 000 machines. On est sur un botnet de taille raisonnable. Donc vous voyez, c'est très difficile de savoir comment. Alors je passe sur cet exemple-là, parce que là, vraiment, on ne sait pas comment... On n'a pas pu analyser à travers il y a eu un certain nombre de documents qui ont été produits, qui sont tous contradictoires, donc on ne sait pas comment les machines se sont mis à dériver. Mais ça, c'est un exposé qu'a fait un ami à moi, là, qui enseigne l'algorithmie à l'Estia, et qui a dit, on peut imaginer à travers tout ça de nouvelles attaques qui sont beaucoup plus redoutables que tout ce qu'on a vu. Et là, on n'est pas dans de la fraude à 1000 euros, on est dans des milliards d'euros. Donc voilà, est-ce que ça c'est quelque chose qui va arriver ? Je vous livre ça. Alors il y a une autre chose qui est remarquable, c'est les asymétries entre l'attaquant et le défenseur. Donc je passe dessus, je finis avec ma dernière ambiguïté, parce que j'ai l'impression que j'ai, comme d'habitude, explosé mon temps. Ça c'est ma dernière planche. C'est si on reprend mes quatre exemples, je vais aller très vite pour montrer que la finalité est pas toujours évidente à trouver. Bon, l'attaque contre l'Estonie, bon, on a appelé ça une cyberguerre. Alors, est-ce que c'était vraiment une cyberguerre ? À mon avis, ça a simplement prouvé que la résilience du cyberespace estonien était très faible. Donc aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de progrès. Donc finalement, ça les a beaucoup aidés à mettre en place une meilleure politique de protection, à développer la résilience, à ne plus dépendre d'un câble qui arrivait d'un endroit unique. Sur la deuxième, la franchise Anonymous et maintenant Lutz, etc., c'est beaucoup plus difficile. Hein. Ce qu'il faut simplement se rendre compte, c'est que quand vous diffusez des gigaoctets de données, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, peut-être que c'est l'activité de la société elle-même qui est attaquée. Peut-être que derrière Anonymous, il y a quelque chose qui est simplement de l'intelligence économique ou tout à fait autre chose. Je n'en sais rien. C'est simplement pour vous dire que quand on cherche la finalité, ce n'est pas toujours ce qu'on voit en premier. Hein, cette société-là a beaucoup souffert. Si vous prenez le vers Stuxnet, là, on a l'impression que c'est clair. Mais là aussi, vous lirez l'article que j'ai écrit, ce n'est pas tout à fait aussi évident que ça. Et puis si vous prenez la dernière attaque, là, celle des machines, là l'objectif est clair. L'objectif des marchés financiers, c'est le profit. Donc là, il n'y a pas de surprise. Par contre, il y a un certain nombre de techniques très obscures et de plus en plus obscures qui sont utilisées dans ce domaine-là, qui montrent qui va arriver dans le futur des choses, où on aura beaucoup de mal à comprendre où est la finalité. Je suis même persuadé qu'on va retrouver dans ces marchés-là, vu les sommes en jeu, un certain nombre de ces attaquants, j'allais dire traditionnels, qui vont se recycler dans des choses qui rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que simplement d'aller piquer quelques cartes bleues sur le réseau. Alors, je vous livre ma conclusion. Donc je pense que les affrontements par machine interposée vont selon toute vraisemblance se généraliser. Donc elles vont exploiter aussi toutes les techniques de la désinformation. J'avais trouvé un article qui en décrivait 25. Donc tout ça s'est amplifié par la puissance calculatoire assez inouïe qu'on trouve sur Internet. Alors même les mathématiques peuvent générer le chaos, comme le montrent les théories fractales. La sécurité des contenus en circulation, des calculs et des traitements. On oublie toujours les calculs et les traitements. Hein, il faut aussi sécuriser les calculs et les traitements, le stockage. Hein, c'est beaucoup plus large que simplement de sécuriser les données. Ça va devenir des enjeux majeurs pour la cyberdépendance. Alors je vous livre ma conclusion. Donc comprendre une cyberagression et pouvoir la traiter juridiquement, qui est souvent votre problème, revient à lever au moins partiellement les quatre ambiguïtés que j'ai essayé de vous décrire. Mais il ne faut jamais oublier que la réalité technique et même mathématique impose ses propres lois. Vouloir une chose et son contraire, arbitrer entre liberté, sécurité et facilité d'emploi, replace toujours l'homme au centre du cyberespace et finalement c'est assez heureux. Merci.